bringt fremde Kulturen ins Rübiland. Kompass. Jetzt auf Kanal K.
Hallo zusammen, 20 Uhr auf Radio Kanal K. Sie sind live in der Sendung Fenster auf Afrika, eine afrikanische Politik- und Kultursendung. Wie jeden Samstag treffen wir, um Afrika zu entdecken, seine Politik und auch seine Musik. Morgen, 31. Oktober, finden die Präsidentschaftswahl in Elfenbeinküste. Darüber sprechen wir per Telefon mit Laurent Despa aus Abidjan. Berichtet uns über das aktuelle Geschehen in Elfenbeinküste. Ich wünsche euch viel Vergnügen auf Kanal K. Am Mikrofon begleitet euch Sylvain Amos. Bonsoir à Abidjan, bonsoir Lomé, bonsoir Dakar. Amis fidèles auditeurs, bienvenue à tous dans l'espace fenêtre sur l'Afrique. C'est un programme de radio Kanal K en Suisse alémanique. Dans moins de 24 heures, les Ivoiriens se rendront aux urnes pour élire ainsi leur premier président démocratiquement élu. Cette élection réconcilia-t-il enfin les fils de ce beau pays de l'Afrique de l'Ouest qui est coupé en deux depuis quelques années? Nous recevons à ce sujet dans quelques instants, en ligne depuis Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, Laurent Despa, directeur de MediaKwasi.com. Nous allons encore faire un tour au Togo, un pays qui ne connaît pas toujours une stabilité politique depuis quelques années. Les manifestations du FRAC qui contestent toujours la victoire de Faure Gnassingbé a été suspendue pour deux semaines. Le FRAC, Front Républicain pour l'Alternance et le Changement, continuera-t-il les manifestations? Maître Abi Tshessa, président du PSR, le Pacte Social pour le Renouveau, tentera de répondre à nos préoccupations. Il sera également dans quelques instants en ligne depuis Lomé. L'ossature de fenêtre sur l'Afrique est toujours la même. Gisela Rossato à la supervision, Josué Maoli et Esteban Gagnon à la programmation. Parfaite collaboration de Romain. Romain, bonsoir.
Bonsoir, cher confrère Sylvain Amos. Bonsoir, fidèle ami auditeur de Radio Kanal K.
Également, Fabi Kwasi nous prête son soutien permanent depuis Lomé. Vous écoutez la voix de Sylvain Amos. Sans plus tarder, je demande à Romain, qui est déjà en ligne, de nous livrer son éditorial.
Toujours debout pour piller l'Afrique. La France-Afrique, c'est comme un iceberg. Vous avez la France de dessus, la partie immergée de l'iceberg. La France, meilleure amie de l'Afrique, patrie des droits de l'homme, etc. Et puis ensuite, vous avez 90% de la relation qui est immergée. La France gantée aux mains de velours. L'ensemble des mécanismes de maintien de la domination française en Afrique avec des alliés africains eux-mêmes, ennemis de leur peuple. Du 22 au 24 octobre, elle s'est tenue à Montreux, en Suisse, le sommet de la francophonie. 56 pays membres étaient présents contre 20 chefs d'État africains, qui sont tous, à l'exception de quelques-uns, des dictateurs protégés et maintenus par la France. Le maître de cérémonie, Nicolas Sarkozy, était présent et c'était pour lui l'occasion d'entretenir ses relations avec les dictateurs dociles. Personnellement, M. Sarkozy a remercié le plus que démocrate Blaise Compaoré, propriétaire de tous les dossiers pourris de l'Afrique de l'Ouest, entre autres celui du Togo, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée. Et que sais-je encore? Avouons-le, Blaise est reconnu pour son implication, son intervention en bien ou en mal dans la tenue des élections en Côte d'Ivoire et en Guinée, alors que les élections en Guinée qui devaient se tenir depuis lors est relégué au calendrier grec. Concernant la Côte d'Ivoire, n'oublions pas que les rebelles du nord du pays on peut se fournir en armes par le biais du Burkina Faso. C'était également l'occasion de Sarko d'assurer à Kabila de la mise à disposition de formateurs de policiers pour la RDC. Enfin, soulignons que M. Abdou Diouf a été reconduit dans son rôle de président du comité de la francophonie alors qu'une plainte vient d'être déposée contre lui à la Cour pénale internationale. Abdou Diouf était effectivement président au Sénégal de 1993 à 2000 au moment de la crise en Casamance. Le rôle qu'il a joué dans cette crise nébuleuse avait été dénoncé par Amnesty International. Le hic de ce sommet, c'est que nous avons vu des chefs d'État africains et leur diplomatie quémander en francophonie comme si l'avenir du pied noir dépend de la France ou du moins du Tchoubab. La diplomatie béninoise demandait de l'aide pour l'aménagement du lac Agoué qui est sorti de son lit et les Togolais quémandaient de l'assistance pour un Togo sinistré. Quelle honte pour une Afrique indépendante depuis 50 ans qui n'arrive pas à faire face à ses responsabilités devant l'histoire. Que c'est naïf de croire que la France peut résoudre le problème des Africains par la francophonie alors que ce pays même brûle et croupit à genoux par des grèves et des barricades tous les jours que Dieu fait. Que peut faire cette France paresseuse aux Africains sinon que de les piller encore plus davantage? Cette France paresseuse qui a la peur et la flemme de travailler jusqu'à 60 ans, peut-elle sauver l'Afrique dont il est champion dans le pillage de nos ressources, forêts, bois, ressources minières, bauxite, pétrole et autres? Peuple africain, peuple fier de son destin, retroussons nos manches, mettons-nous tous ensemble dans une symbiose. Créons une dynamique pour brouter hors cette toubabe vendeur d'illusions qui s'appelle la France, qui n'ont rien à nous donner que du vent. L'union fait la force.
Call it love, but I feel, oh, you know. kata nyanyine nunu banga jamana gouverneur ayamima
African Revolution, nouvel album de Tiken Diafakoli, qui pense que l'Afrique a besoin d'une nouvelle révolution, une révolution jeune. Les Ivoiriens voteront demain 31 octobre pour élire leur nouveau président. La liste est pléthore. Au total, 14 candidats sont retenus pour les élections en Côte d'Ivoire. Parmi les candidats figurent d'abord les signataires des accords de Marcoussis en janvier 2003. Il s'agit de Laurent Gbagbo, président sortant du FPI, le Front populaire ivoirien, avec le soutien de 9 autres groupements politiques. Parmi ses adversaires, on note l'ancien président Henri Kona Bédié, présenté par le PDCI, et l'ancien premier ministre Alassane Ouattara, soutenu par le RDR, le Rassemblement des Républicains. Une seule femme est en lice, Jacqueline Oblé, Louis, ancienne ministre de la Justice. On note également la surprenante candidature du comédien humoriste Adama Daïko, qui veut aussi tester sa popularité, mais cette fois sur le terrain politique. À l'invitation du gouvernement de la République de la Côte d'Ivoire et conformément au protocole additionnel sur la démocratie et de la bonne gouvernance, le président de la commission de la CEDEAO, James Victor Gbero, a dépêché une mission d'observation dans le cadre de la supervision de l'élection présidentielle du 31 octobre 2010 en Côte d'Ivoire. Dirigée par le professeur Théodore Rollo, président de la Haute Cour de justice du Bénin, cette mission vise à s'assurer du bon déroulement du processus électoral en vue d'une élection libre, transparente et crédible. Présente donc sur le terrain ivoirien depuis le 25 octobre 2010, et jusqu'à ce jour, et jusqu'à la proclamation des résultats, la mission d'observation de la CEDEAO fera un travail d'observation qui portera notamment sur la régularité, la transparence, l'équité et le bon déroulement de la présidentielle à l'issue de laquelle la mission exprimera son opinion et formulera en cas de besoin des recommandations à l'endroit du gouvernement ivoirien. Pour nous informer un peu plus sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire, après près de quelques heures du premier tour de l'élection présidentielle, nous recevons tout de suite, depuis Abidjan, le directeur de médias Kouassi.com, Laurent Despa, qui est déjà en ligne depuis la Côte d'Ivoire, Abidjan. Laurent Despa, bonsoir.
Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous les auditeurs.
Vous êtes français et vous êtes installé depuis quelque temps en Côte d'Ivoire. Vous êtes directeur de Mediakouassi.com, je viens de le dire tantôt, un site qui s'intéresse beaucoup plus à la politique africaine, notamment des pays de l'Afrique de l'Ouest. Laurent, à moins de 24 heures, le peuple ivoirien élira son nouveau président. Selon vous, est-ce que les Ivoiriens vont voter demain dans la tranquillité puisque la tension est montée d'un cran cette semaine, surtout à Abidjan, Laurent?
Oui, tous les indices, et notamment Guillaume Soro, le Premier ministre, l'a rappelé aujourd'hui lors d'une conférence de presse au Golf Hotel, c'est que tous les indices disent que l'élection va bien se passer. On a noté des incidents, mais qui sont mineurs, notamment beaucoup, évidemment, vu que ça fait 10 ans qu'on attend une élection en Côte d'Ivoire, que la pression est forte, beaucoup s'attendent à une explosion, mais ce qu'on constate là même, au moment où je vous parle, les rues d'Abidjan sont vides, tout le monde a peur qu'il se passe quelque chose, mais en fait, il ne se passe rien. Vaut mieux prévenir que guérir, c'est ce qu'a fait, là encore, je répète, Guillaume Soro. Donc aujourd'hui, en appelant tout le monde au calme et à la sérénité, et je pense que tous les leaders, même Laurent Gbagbo hier qui était sur la RTI, a appelé aussi au calme, au respect entre eux, entre candidats. Donc comme souvent en Afrique, tout se passe bien avant le vote. Maintenant, qu'est-ce qu'il en sera après le vote, au moment de la proclamation des résultats? Ça, à ce jour, personne ne le dit, mais personne ne peut le dire. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut dire quand même, c'est que les indices, par rapport à ce qu'on aurait pu penser, sont quand même bons, et chacun y met du sien, d'un côté comme de l'autre, et c'est plutôt positif, et c'est à souligner.
Oui, Laurent, le constat est très amer qu'en Afrique, la transparence des élections pose énormément de problèmes. Et vous venez de l'évoquer. Pensez-vous que Laurent Gbagbo, le président sortant, organisera une élection transparente en Côte d'Ivoire?
Alors, ce n'est pas Laurent Gbagbo qui organise l'élection. L'élection est confiée à la CEI. Et la CEI, c'est l'opposition. On va dire que l'élection est confiée à l'opposition ivoirienne. En l'occurrence, signataire de Marcoussi, le RHDP. Donc le PDCI d'Henri Conan Bédié et le RDR d'Alassane Draman Ouattara. Le président de la CEI, M. Bakbo, est issu du PDCI. Ses adjoints, les vice-présidents, sont issus du RDR. Donc on ne peut pas dire que c'est Laurent Gbagbo qui gère l'élection, même si, bien évidemment, il a le ministère de l'Intérieur de Nigeria Tagro, qui est de son camp, du FPI, qu'on appelle aujourd'hui la LMP, mais il a aussi le corps préfectoral, il faut le dire. Mais aujourd'hui, comme je le répète, l'élection ivoirienne est confiée à l'opposition. Ils se sont entendus sur le mode de comptage, qu'on pensait manuel, électronique, maintenant on va faire un peu les deux, c'est un système un peu hybride. Ce rôle l'a rappelé encore aujourd'hui au Golf Hotel pour vraiment clarifier la situation et pour véritablement que le scrutin soit le plus clair et transparent possible, de façon à ce que tout le monde accepte les résultats qui seront proclamés par la CEI au moment donc de l'annonce des résultats.
Laurent Despas, la mission d'observation, que cela soit de la CEDEAO et de l'Union européenne, est toujours critiquée. Quelle lecture faites-vous sur la mission d'observation, surtout de l'Union européenne, pendant les élections en Afrique? Pensez-vous qu'elle mène à bien leur mission d'observation, Laurent?
Pas du tout. Moi, je vais quand même lancer un appel un peu à tout le monde. C'est que, vous savez, nous vivons en Côte d'Ivoire. Nous sommes là tous les jours. Nous connaissons le pays. Un pays, on est observateur. Quand on arrive comme ça deux jours ou une semaine avant, on ne connaît pas le pays. On est un peu en vacances, vous voyez. Beaucoup de subtilités, de détails nous échappent parce que, bien évidemment, on ne connaît pas le pays. Donc, ces missions d'observation, qu'elles soient de la CEDEAO, de l'Union européenne ou j'en passe, ne peuvent pas être pertinentes du fait qu'elles arrivent dans un contexte qui est particulier et qui... C'est là où bien des spécialistes même se trompent. On voit RFI constamment qui donne des fausses informations, notamment même sur les SMS récemment, en disant que les SMS n'allaient pas passer, ce qui est complètement faux, ou même que les jours auraient été fériés. Voilà, il y a tellement d'approximations en général de ces grands ensembles occidentaux sur l'Afrique que ces démembrements qui arrivent comme ça sporadiquement et pour un événement sur le continent, on peut pas dire qu'on peut compter sur eux. C'est vrai que ça fait bien, c'est là, mais l'élection, c'est les Ivoiriens qui vont la faire et c'est les Ivoiriens qui l'ont dans leurs mains.
Beaucoup d'Africains pensent que la France influe dans le processus électoral en Afrique. Est-ce le cas cette fois-ci encore en Côte d'Ivoire?
Alors, de dire qu'elle est appliquée dans le processus, ce serait beaucoup s'avancer, mais il faut quand même noter que Laurent Gbagbo, le président sortant, qui est candidat à sa réélection, a donné beaucoup de marchés à la France, Total, Bouygues, Peupon, a renouvelé tous les contrats, notamment du port avec Bolloré. Le secrétaire de l'Élysée, Claude Guéant, est venu en Côte d'Ivoire. Le FPI de Laurent Gbagbo est devenu LMP, ça nous rappelle un peu l'UMP de Sarkozy. Donc il y a beaucoup d'analogies à ce moment avec la France. Laurent Gbagbo a clairement dit, même encore hier, qu'il s'est rapproché de la France et qu'aujourd'hui il gère d'égal à égal, de chef d'État à chef d'État, on en sous-entend Sarkozy, Gbagbo, ivoirien, français. Donc les rapports se sont apaisés et effectivement, beaucoup ici disent qu'en fonction de ces contrats renégociés ou redonnés, alors que Laurent Gbagbo disait clairement à l'époque de Chirac qu'il aurait tout vendu aux Chinois ou aux Iraniens, c'est tout, on l'a quand même dit, il l'a dit dans ses discours. Et aujourd'hui, on voit une inversion des tendances et ça peut laisser préfigurer, si on s'arrête sur le cas du Togo, du Gabon vécu récemment, à peut-être un appui. Mais je le répète, la CEI, donc ceux qui gèrent l'élection, est confiée à l'opposition qui a les yeux rivés dessus. C'est un scrutin qui sera entièrement contrôlé, contrôlable par le peuple et par les différents partis politiques représentés dans l'élection. Donc ça va être difficile qu'il y ait une entremise d'une puissance comme ça, hégémonique, en Côte d'Ivoire pour ce scrutin.
Oui, Laurent Despas, on rapporte en Côte d'Ivoire que Laurent Gbagbo est le candidat de la France. Que dites-vous, Laurent?
Oui, effectivement, je viens de dire, le fait que Laurent Gbagbo se soit rapproché officiellement de la France et casser les antagonismes et donner tous les marchés à cette puissance mondiale, premier partenaire, comme il l'a rappelé hier sur l'émission de la RTI face aux électeurs, premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire. Donc il a renoué ce bâton-là après cette crise qu'il évoque constamment. Donc effectivement, il se pourrait que des réseaux français, notamment via ce que l'on dit Ali Bongo au Gabon, puisse l'aider quelque part, peut-être dans sa communication, peut-être dans sa façon de gérer l'armée, on n'en sait rien. Sachant que Licorne, la force française Licorne, est encore en Côte d'Ivoire, en appui de l'ONU s'il y a des débordements. À ce jour, comme je le répète, chaque candidat a son plan. Chacun des trois grands candidats, Ouattara, Bédier, Laurent Gbagbo, favoris de ce scrutin-là, ont leur plan. Qu'est-ce que la France, qui est présente militairement en Côte d'Ivoire, fera? À ce jour, personne ne peut le dire. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, à cette heure, on se parle jusque pendant toute la campagne. Tout est apaisé en Côte d'Ivoire, à Abidjan, comme sur l'étendue du territoire en Côte d'Ivoire.
Laurent Despas, une dernière question. Vous connaissez très bien la politique ivoirienne. Et 14 candidats en lice, dont une femme pour un fauteuil présidentiel. Que dites-vous, Laurent, sur le nombre pléthorique des candidats?
Alors, ce nombre préfigure la démocratisation de la Côte d'Ivoire. En l'occurrence, il fallait donner des signaux forts de retour à la normale et le fait que chacun ait pu. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 2000, beaucoup ont été écartés. Et Laurent Gbagbo, ça a vraiment été une de ses volontés, ça, il faut lui accorder ça, de vouloir que vraiment tout le monde puisse se présenter à cette élection de manière transparente, sans que quelqu'un puisse dire demain qu'il n'a pas pu. Ce qui fait que, bien sûr, on se retrouve avec des candidats qui peut-être ne dépasseront même pas le 0,1%, mais en l'occurrence, toute personne qui a rempli les conditions et qui a voulu se présenter figure dans ce scrutin. C'est bon, c'est pas bon, libre aux Ivoiriens d'en décider. En tout cas, c'est un vent de démocratisation, une dynamique de démocratisation qui, en tout cas, a été donnée au monde entier par ce fait-là.
Laurent Despard, merci d'avoir répondu à nos questions en direct depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je rappelle que vous êtes directeur de MediaKwassi.com. Encore une fois, merci et bonsoir chez vous, Laurent Despard.
Merci Sylvain, merci à tous les auditeurs.
Fenêtre sur l'Afrique, interview, débat, analyse sur l'actualité politique africaine sur Radio Canal K, une émission présentée par Sylvain Amos.
Eh bien, avant de retrouver depuis Lomé et nos invités qui sont déjà en ligne, bien sûr, mais on va toujours les garder en ligne, nous allons d'abord prendre notre correspondante Fabi Kwasi et pour le briefing de l'actualité politique au Togo. Fabi Kwasi, bonsoir.
Sylvain Amos, bonsoir. Bonsoir à tous nos auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique.
La manifestation du collectif togolais des défenseurs des droits de l'homme a été réprimée par les forces de l'ordre à Lomé ce matin. Fabi, est-ce que cette manifestation a été interdite par le gouvernement?
Bon, le gouvernement, pour l'instant, n'a pas pondu un communiqué pour dire que cette manif a été interdite. En tout cas, jusqu'à hier nuit, les organisateurs de cette marche n'ont pas eu de réponse des autorités compétentes, notamment le ministère de l'administration territoriale et de la sécurité. Donc, il n'y a pas que le FRAC qui subit la répression des forces de sécurité. Les défenseurs de droits de l'homme viennent de faire l'expérience. Ils ont été proprement réprimés. Gazé. À ce niveau, il faut dire que le pouvoir de Faure Gnassingbé vient de franchir un autre Rubicon, hein, réprimant avec autant de violence les organisations, les manifestations des organisations de défense des droits de l'homme qui protestent contre la justice à double vitesse, la détention arbitraire, notamment celle du DG de Redémar, Sama Essor Hamlon, et les propos négationnistes d'Abbas Bonfou. Mais fondamentalement, Sylvain, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pouvoir en place vient de démontrer que tous les Togolais, qu'ils fassent de la politique ou qu'ils soient dans la société civile ou simples citoyens, n'ont plus le droit de bouger le petit doigt ou d'exprimer leur mécontentement, et ceci contrairement aux dispositions de la Constitution, notamment son article 30, qui stipule que l'État garantit toute manifestation pacifique. Alors, si les organisations de défense qui n'ont rien à voir avec le fauteur de force sont réprimés de la sorte, imaginez ce qui arrive aux prétendants au fauteuil présidentiel. À peine les organisations ont-elles entamé la marche que les gaz et les bastonnades ont commencé. Plusieurs motos, au moins une soixantaine, ont été saisies. Le Togo a fait un grand recul, un recul spectaculaire en seulement quelques mois. Et le pouvoir de Faure n'a rien de différent avec celui de son père, à en croire certains observateurs rencontrés sur les lieux, qui étaient carrément en colère. On fait juste semblant de changer la manière de faire les choses, mais on les fait toujours, quitte à rester au pouvoir par tous les moyens, à tous les prix, à renchérir un autre.
Oui, Fabi, le dossier du nouveau parti de Jean-Pierre Fabre-ANC, Alliance nationale pour le changement, n'a pas reçu son récépissé. Mais Pascal Bodjona, ministre de l'administration territoriale, affirme qu'il n'hésiterait pas à signer le dossier de l'ANC une fois que les manquements relevés seront corrigés. Fabi, qu'en est-il exactement?
Bon, on verra ce que le ministre va faire dans la semaine à venir. On va le tenir au mot. Maintenant, c'est vrai que Fabre et les amis doivent attendre encore avant d'avoir le récépissé, au moins une semaine. L'auront-ils, se demandent tous les Togolais, hein, qui se bousculent quand même au portillon de ce parti pour être enregistrés comme membres. car aujourd'hui le parti de Jean-Pierre Fabre est défini comme celui de tous les mécontents et déçus, et surtout le parti le plus proche des aspirations du peuple togolais, mais sans récépissé, donc sans base juridique et légale. Fabre et ses amis ne peuvent lancer le parti et démarrer convenablement leurs activités. Donc le ministère de l'administration, comme on s'y attendait, dit relever des irrégularités dans le dossier ANC. Sur 202 de ses demandes fondateurs, 60 comportent des incohérences selon ce ministère, liées aux petits problèmes d'état civil, au nom, aux dates de naissance, les problèmes que tous les Togolais ont tous les jours. L'histoire des prénoms, tout le monde sait très bien que c'est Yadema qui a introduit l'authentification des prénoms, et lui-même, Étienne, est devenu Yadema entre-temps. Donc, ces quiproquos là, tous les Togolais les traînent sur leurs papiers pour faire le passeport, la carte d'identité. Aujourd'hui, c'est un parcours de combattant. En gros, les dossiers sont redéposés depuis hier et on verra dans la semaine ce que le ministère de l'administration va encore répondre aux membres de l'ANC, aux responsables de l'ANC. Mais déjà, il se sûre que d'ici mardi, le récépissé devrait être délivré à Jean-Pierre Fabre et compagnie. Et maintenant, c'est des informations à prendre avec grand pincette parce qu'on sait très bien que le pouvoir n'est pas disposé à leur donner ce fameux récépissé-là sur plateau d'or.
Fabi Kouassi, et depuis bientôt 3 semaines, le FRAC n'organise plus des manifestations. Et Fabi, vous qui êtes à Lomé, que pense la rue de cette suspension des manifestations du FRAC?
Je pense que le pouvoir veut jouer le fait que la rue ne siffle plus, que les gens ne battent plus le pavé pour ne pas donner également le récépissé en temps opportun à l'ANC. Quand on sait que l'ANC a l'épine dorsale du FRAC, ça se comprend. Et les responsables de l'ANC veulent être légal. Ils ne peuvent pas prendre le micro ou organiser des activités comme ils ont l'habitude de le faire. Donc c'est tout à fait normal. Et le pouvoir qui veut avoir le sommet tranquille fait tout pour délivrer ce récépissé-là aussi tardivement possible. Maintenant, au niveau de l'opinion, les gens s'impatientent. C'est vrai que le pouvoir joue sur ça, mais ça peut être un couteau à double tranchant pour lui, parce que le jour où l'ANC aura son récépissé, le FRAC va relancer ses activités, il risque d'avoir beaucoup plus de monde dans les rues qu'il y en avait eu il y a aux premières heures de la contestation de la réélection de Faure Gnassingbé. C'est pour ça la marche de ce samedi, celle des organisations de défense des droits de l'homme qui a été réprimée, allait rassembler tous ces mécontents-là, tous ces gens, ceux qui n'ont plus battu les pavés et qui voulaient crier leur ras-le-bol à la façon dont ils sont gouvernés. N'oubliez pas que la marche des ODDH visait la justice de deux poids, deux mesures, visait les propos négationnistes d'Abbas Bonfo et visait la détention arbitraire. Donc tous les Togolais, bref, se reconnaissent dans ces mots d'ordre-là et attendent le moment opportun. Dès que l'ANC aura son récépissé, je pense que le FRAC va repartir et sur de nouvelles bases avec beaucoup plus de force et d'autres stratégies. Donc je pense que le pouvoir gagnerait à donner ce récépissé-là, sinon ce n'est qu'une bombe à retardement, et quand ça va faire boum, ça va lui péter en pleine gueule.
Fabi Kouassi, merci. Ce matin, à Lomé, suite à la répression policière de la manifestation du collectif des Togolais des droits de l'homme qui organisait une marche pacifique contestant la détention arbitraire du DG de Redémar ainsi que la politique de deux poids, deux mesures, nous avons également réussi à joindre en ligne depuis Lomé Maître Zeus Atta Ajavan, que nous prenons tout de suite depuis Lomé. Bonsoir Maître Atta Ajavan Zeus.
Bonsoir.
Merci d'être en direct avec nous dans Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K, ici même en Suisse. Maître Ajavan, le collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT, dont vous êtes président de la coalition et togolaise des droits et la coalition togolaise des droits de l'homme, CTTDH, ainsi que l'association chrétienne pour l'abolition de la torture, ACAT, en plus d'autres organisations de défense des droits de l'homme, ont organisé ce matin une marche de protestation contre la détention arbitraire du premier responsable du réseau pour le développement de la masse sans ressources Redémar, qui est à la prison civile de Lomé depuis juillet dernier. Et Maître, nous venons d'apprendre que cette manifestation a été réprimée à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Maître Ajavan, qu'en est-il exactement cet après-midi ou bien ce matin à Lomé?
Oui, vous savez, la marche n'a pas seulement été organisée pour le directeur de Redémar. La marche a été organisée pour défendre les dérives en matière de violation de l'homme que nous avons constatées depuis un certain nombre de mois. Et dans un premier temps, nous avons pensé qu'il y a eu évolution, Mais nous constatons que qu'aujourd'hui, il s'agit d'une régression pure et simple et généralisée, systématique des droits de l'homme au Togo. Et c'est pour ça que nous avons voulu dénoncer tout cela aujourd'hui, à savoir d'abord les propos négationnistes du président de l'Assemblée nationale qui avait nié toutes les violences, toutes les violations et tous les morts qui avaient eu lieu en 2005. Les arrestations arbitraires qu'il y a aujourd'hui au Togo et la dernière attaque de M. Sam et son homme de Redema et même l'ancien ministre Antoine Folie qui vient aussi d'être arrêté. Et nous dénonçons tout cela et nous avons constaté également qu'il y a beaucoup d'arrestations arbitraires qui gonflent les géoles de l'État togolais. Et ensuite, nous constatons également que sur le plan économique, la santé de la vie est telle que les pouvoirs, les droits économiques des Togolais et les droits sociaux des Togolais sont également violés. Donc nous avons dénoncé tout ça et nous avons écrit plusieurs reprises aux organisations gouvernementales, notamment M. Balda. Nous avons même organisé un sit-in pour dénoncer tout cela. Et nous avons commencé à constater que ça n'évolue pas du tout. C'est pour ça que nous avons voulu organiser aujourd'hui une marche pour dénoncer tout cela.
Maître Ajavon, face maintenant à cette recrudescence des répressions et des violations systématiques des droits de l'homme, et quelle avenue donc pour le Togo?
Ben, vous savez, nous sommes choqués, nous sommes inquiets. Inquiets parce que face à cette recrudescence, nous avons voulu, nous, les organisations des droits de l'homme, nous avons voulu aujourd'hui faire une démonstration, manifester notre désapprobation, notre désespoir et notre inquiétude. Mais on nous en a empêché. Nous avons écrit de façon formelle au ministère de l'administration territoriale chargé de recevoir cette demande. Nous n'avons reçu aucune réponse à ce jour. Et donc, nous avons, pour nous, il n'y avait aucune interdiction, aucune entrave à cette manifestation. Et nous sommes présentés ce matin. Et on nous en a empêchés. On nous a dispersés à coups de gaz lacrymogène. Et nous disons, si les défenseurs de l'homme, si les organisations des droits de l'homme peuvent être réprimées de la sorte, peuvent être empêchées à coups de gaz lacrymogène, à coups de bâton, à coups de bottes, peuvent être traitées de cette façon, nous sommes très inquiets. Nous sommes choqués. Parce que nous estimons que ce qui s'est passé aujourd'hui ne peut pas se passer dans un pays normal. Et que dans un pays normal, lorsque les organisations des droits de l'homme manifestent, il n'y a pas lieu à réprimer cette manifestation. Et donc nous sommes maintenant inquiets parce que nous sommes en train de nous enfoncer de plus en plus dans le fossé de la répression des droits de l'homme. Et c'est pour ça que nous disons que le Togo n'étant plus ce petit carré qui, dans lequel on fait la dictature sans être puni, on fait la dictature impunément, on viole les droits de l'homme impunément. Nous pensons qu'il faudra mettre tout cela sur la place publique, mettre tout cela sur la scène internationale, parce que nous disons aujourd'hui que nous vivons dans un village planétaire et que tout ce qui se passe dans notre pays, dans notre petit carré de pays, doit être mis sur la place publique.
Maître Ajavon, restez toujours en ligne avec nous. Romain est déjà en ligne depuis Bono. Bonsoir, Romain.
Bonsoir, Maître Ajavon.
Bonsoir, Romain.
Le CACIT et certains collectifs des défenseurs des droits de l'homme viennent de porter une plainte contre la gendarmerie. Mais Maître, quelle est l'opportunité de cette démarche et qu'attendez-vous réellement devant le tribunal?
Oui, vous savez, les victimes de la répression d'il y a 3 semaines, lorsqu'on a voulu empêcher le député Jean-Pierre Fabre de sortir pour aller manifester, les gens qui étaient devant sa maison et dans sa maison ont été empêchés de sortir. On les a battus. On les a tirés dessus. Et il y a 2 qui ont reçu des balles ou en cachou ou en quel matière, je ne sais pas. Hein, les gens ont eu des blessures graves. Et c'est pour cette crime qui ont porté plainte. Et le CACIT et la CAC et les autres, nous assistons à cela, ces victimes. Et nous avons porté plainte avec eux. et les avocats qui sont dans nos organisations sont les avocats qui les défendent et qui ont porté cette peine-là auprès des juridictions togolaises. Vous dites qu'est-ce que nous attendons de ça? Bon, nous, c'est le principe. Nous avons déposé plainte et nous attendons. Ou ces plaintes se peuvent faire et on les inscrit normalement, comme ça, je dois dans un pays normal. Et on tire on fait la lumière sur ce qui s'est passé et on tire la sanité. Ou alors, rien ne se passe et nous verrons dans quelle mesure tout cela doit être porté devant les institutions internationales.
Romain, vous avez une dernière question?
Oui, maître, à propos des organisations internationales, vous venez de saisir également cette semaine le Haut Commissariat des droits de l'homme. Pensez-vous que cette institution internationale tranchera rapidement le dossier complexe qu'est celui du Togo?
Oui, nous avons voulu mettre ce qui se passe devant le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Il revient au Haut Commissariat étudier notre requête, de voir la lettre ouverte que nous avons écrite, de l'étudier et de voir ce qu'il y a de faire. Nous ne savons pas leur procédure, mais nous ne savons pas s'ils vont faire, s'ils vont traiter le problème rapidement ou non. Mais nous espérons que ce problème sera inscrit à l'ordre du jour d'une de leurs prochaines sessions et que la question sera mise au débat.
Maître Ajavan Zeus, une dernière question. Les propos négationnistes du président de l'Assemblée nationale togolaise, Abbas Wonfo, ont été également mentionnés dans votre saisine au CDH à Genève. Mais il semblerait que Abbas Wonfo n'est pas prêt à démissionner à son poste. Que répondez-vous, Maître Ajavan Zeus?
Ben, vous savez, c'est grave parce que les propos qu'il a tenus sont des propos qui portent atteinte même à la crédibilité des Nations Unies. Puisque les Nations Unies avaient dépensé une commission qui est venue au Togo, qui a fait des investigations et qui a affirmé qu'il y a entre 400 et 500 morts. Et Abbas Wonfo affirme aujourd'hui que lui n'a vu aucun mort, qu'il n'y a pas de mort. Ça veut dire que c'est une injure au système des Nations Unies, une injure à la commission qui a fait le travail. Il faut dire également que le gouvernement togolais lui-même avait dépêché une commission présidée par l'ancien Premier ministre Kofigo et qui avait fait son rapport et qui avait estimé qu'il y avait eu plus de 150 morts. Ça veut dire que le Abbas Wonfo est en train de désavouer également la commission et pas de la commission le gouvernement. C'est grave. S'il ne veut pas démissionner, je crois que les députés doivent prendre leur responsabilité pour faire avoir une motion de défiance comme lui et exiger sa démission.
Maître Atta Ajavan Zeus, merci d'avoir répondu à nos questions en direct depuis Lomé. Depuis 3 semaines, le FRAC n'organise plus de manifestations. Va-t-il continuer les marches de contestation de la victoire de Faure Gnassingbé? À ce sujet, nous avons invité également Maître Abi Tchessa du PSR, membre du FRAC. Il est déjà en ligne en direct depuis Lomé. Maître Abi Tchessa, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être en direct avec nous dans Fenêtre sur l'Afrique. Vous êtes président du PSR, le Pacte Social pour le Renouveau, et membre du FRAC, Front Républicain pour la Tenance et le Changement. Comment va le FRAC par rapport à la nouvelle donne politique? Je voudrais dire la création de l'ANC, Alliance Nationale pour le Changement. Le FRAC va-t-il continuer les marches de contestation et de la victoire de Faure Gnassingbé?
D'abord, vous me demandez comment va le FRAC. Il va bien. Alors, nous sommes confiants dans notre organisation commune. Le FRAC est notre cadre d'action et nous pensons que, unis, nous allons pouvoir mieux gérer l'alternance au Togo, la maîtriser et qu'elle soit effective. Vous savez, depuis 20 ans, notre pays est à la recherche d'un changement. Et les forces qui sont dans le FRAC, me semble-t-il, sont assez représentatives pour conduire le pays vers ce changement. Nous avons contesté et nous contestons fortement les résultats des élections du 4 mars 2010. Et notre candidat, qui était Jean-Pierre Fabre, selon les résultats que nous avions, que nous nous apprêtions à à partager, à faire voir à tous nos partenaires selon les résultats qu'on avait en notre possession. Jean-Pierre Fabre était en tête du scrutin. Et c'est cela qui a fait que nous avons estimé que la contestation populaire était le seul moyen légal pour nous de nous exprimer et de refuser les résultats ici de cette élection. Je vais tout de suite vous dire que en Afrique et particulièrement dans notre pays qui a connu toujours des élections émaillées de violence, tant qu'il n'y a pas de violence, on estime que à peu près l'élection est correcte. Mais il y a une autre manière très très disons sophistiquée de la part du régime en place de procès au hold-up. C'est ce qu'il a fait et nous contestons ces résultats. Voilà, donc nous sommes dans une logique de contestation jusqu'à ce que la légalité ici des urnes soit restaurée. Et je pense que nous ne sommes pas prêts à baisser les bras.
Maître Abi Tissa, il est incontestable que la lutte s'essouffle sur le terrain. Comment justifiez-vous cela?
Non, la lutte ne s'est pas essoufflée. Nous avons eu quand même un certain nombre d'événements. D'abord, il y a eu la crise interne à l'IFC, qui a été une occasion pour le pouvoir de réprimer les manifestations, donc de les interdire de facto. Et nous avons toujours continué de dire ou d'envoyer à l'administration territoriale toujours parce que nous sommes sous un régime d'information et non sous un régime d'autorisation. Donc nous avons envoyé toujours à l'administration territoriale, donc au gouvernement togolais, l'information quant à la poursuite des marches. Et nous n'avons jamais reçu une interdiction formelle, ni par communiqué, ni par lettre. Et nous estimons que nous sommes dans notre droit constitutionnel de manifester toujours. Donc les événements qui sont survenus tout récemment, c'est la crise interne à l'IFC et la création de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, les deux événements, à la fois nous ont amenés à observer une pause. Mais je dis bien, c'est une pause que nous avons volontairement acceptée en attendant de faire le point et de reprendre les marches. Donc je vous annonce la reprise des marches.
Maître Abi Tissa, de quoi pense que le FRAC étouffe d'une façon ou d'une autre la dynamique du peuple qui a soif d'un changement démocratique au Togo, à partir du moment où les citoyens ne reçoivent plus aucun mot d'ordre des responsables? Comment peuvent-ils être mobilisés, Maître Abi Tissa?
Non, pas du tout. Nous ne pouvons pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Nous sommes très engagés, fortement engagés pour le changement, la vérité des urnes, pour une alternance politique maîtrisée, comme je vous l'ai dit. Nous ne pouvons pas étouffer l'aspiration profonde de ce peuple au changement. Au contraire, nous en sommes l'expression. Je pense que nos concitoyens comprennent qu'aujourd'hui, face à la réalité qui est quoi, la loi électorale oblige les responsables de l'ANC à ne pas faire d'activité pendant 15 jours. Voilà, nous avons assisté à l'expiration de ce délai cette semaine. Il y a sans doute des irrégularités dont on parle qui doivent être régularisées. Et à partir de ce moment, du moment où l'ANC est constituée, les autres partis, plus l'ANC, ADI, PSR, ANC et Sursaut Togo et OBUT, parce que Obito aussi a eu son récépissé. Nous allons continuer les marches, nous allons restructurer le FRAC, qui est un regroupement de partis, et nous allons offrir à notre pays, à notre peuple, la chance de connaître ce changement qui a eu lieu autour de nous. Vous voyez, nous ne pouvons pas aujourd'hui hésiter dans cette lutte populaire qui, ma foi, nous semble la seule possibilité aujourd'hui d'amener le Togo à un lendemain meilleur.
Maître Abi Tissa, restez toujours en ligne avec nous. Romain Koudodi, collaborateur de cette émission Fenêtre sur l'Afrique, est également en ligne depuis Bono. Romain?
Oui, bonsoir, Président.
Oui, bonsoir, vous allez bien?
Oui, je vais très bien, merci. Président, sans les membres de l'UFC, versus Fabre, les veillées de prière et les manifestations ne peuvent-elles pas avoir lieu?
Non, bien sûr que jusque-là, vous savez, à un moment donné, au sein du FRAC, il y avait deux parties signataires des informations, des lettres que nous envoyons au gouvernement, le PSR et ADI. Et nous avons continué, sous le couvert des deux parties, avec Fabre et ses amis, nous avons continué de demander, de réclamer les manifestations ou de les organiser, et, ainsi que les veillées de prière. Ce que je vous indiquais là tout à l'heure, c'est que la création de l'ANC, à partir du moment où l'ANC est lancée sur les fonds baptismaux, la charte des partis, un parti a un délai de 15 jours pour que le dossier soit examiné au niveau de l'administration territoriale. Dans ce délai de 15 jours, la loi interdit aux membres, aux fondateurs, en tout cas à ceux qui se réclament de ce parti, de ne pas faire d'activité politique. Donc, nous avons voulu être très légalistes, ce que nous avions fait d'ailleurs depuis le 4 mars 2010, et nous ne sommes pas dans une dynamique d'échanger de stratégie ou de sursoir aux marches. Nous allons les reprendre, et les reprendre cette fois-ci d'une manière beaucoup plus plus déterminée, plus percutante. Vous savez, les marches sont demandées d'ailleurs par le peuple togolais lui-même. Nous ne rencontrons pas de difficultés à organiser ces marches, et aucun événement ne peut empêcher ce peuple de sortir et de manifester. Donc, nous avons tenu compte de la situation nouvelle pour réorganiser mieux les marches. Et nous faisons pas beaucoup de... Il n'y a pas de doute quant à la volonté des uns et des autres que les marches reprennent. Donc, nous sommes tous dans la même dynamique.
Romain, vous avez des questions? Vous pouvez continuer, Romain.
Oui. Le FRAC pourra-t-il toujours revendiquer la victoire du 5 mars à partir du moment où le candidat de l'UFC à cette élection est devenu président d'une autre formation qui n'est pas allée aux élections? Ou le FRAC et le PSR mènent-ils le peuple?
Mais vous savez, d'abord, l'élection a eu lieu le 4 mars 2010. Le problème n'est pas au niveau de la formation qui avait investi ce candidat. Le problème, c'est le candidat qui a été président, candidat à l'élection, et c'est lui qui est au-devant de cette réclamation, de cette revendication, de la contestation des résultats. Alors, à partir de cet instant, je pense que vous notez avec moi ce n'est pas un problème de l'UFC. Si c'est un problème de l'UFC, ce sont les électeurs qui avaient choisi Jean-Pierre Fabre aujourd'hui qui adhèrent à la manifestation. À ce niveau, ne se pose pas un problème de droit. En revanche, on aurait pu penser que une fois que le candidat lui-même a quitté le parti qu'il a investi, et ça peut créer un choc sur le terrain de telle sorte que les marches ne peuvent pas être organisées convenablement. Alors là encore, la réalité est que le peuple togolais est assez mobilisé et nous réclamerons jusqu'au bout. Il n'y a aucun obstacle de droit.
Maître Abitiessa, parlons maintenant des inondations en cours au Togo. Le pouvoir togolais parle de 21 morts et plusieurs dégâts matériels. Au FRAC, et plus particulièrement au PSR, ces morts vous sont-ils indifférents puisque vous n'avez pas réagi, ne serait-ce qu'un communiqué ou un signe de solidarité envers les victimes et les familles éplorées? N'est-ce pas aussi de la politique, Maître Abitiessa?
Non, mais nous avons réagi, nous avons fait une conférence de presse et nous avons réagi. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que dans ce pays, il y a un climat délétère et une forme d'exploitation d'un certain nombre d'événements qui sont assez douloureux. Lorsqu'il y a des événements de cette nature, les inondations avec leur cohorte de morts et de deuil pour les familles togolaises, il me semble qu'il revient au gouvernement de prendre des mesures adéquates pour prévenir à l'avenir de ces calamités. Surtout que les spécialistes conviennent à dire que dans les 50 ans qui viennent, on fera face à des événements pareils. Je veux dire par là que nous souhaitons que le problème des inondations soit une préoccupation majeure du gouvernement togolais. Vous savez, nous sommes dans un pays où le gouvernement s'offre éternellement des vacances et vit replié sur lui-même. Il est temps que nous posions les vrais problèmes de ce peuple. Et parmi ces problèmes, la priorité, ce sont les inondations. Alors nous avons déploré, nous avons pleuré avec les familles endeuillées, mais nous souhaitons qu'aujourd'hui, il y ait une position, il y ait un programme gouvernemental pour... Parce que les populations concernées sont toujours les mêmes, les endroits concernés sont les mêmes et il faudrait d'urgence prendre des mesures, certes, mais trouver une solution à très long terme. Voilà, c'est ce que nous réclamons et nous demandons au gouvernement togolais, qui est malheureusement absent.
Romain, vous avez eu une dernière question?
Évidemment, à propos du gouvernement, le dernier conseil des ministres, maître RPT-UFC et des amis de Gilles-Christ Olympio, parle de détournement de deniers publics et de trafic de passeports. Comment en est-on arrivé là?
Mais c'est honteux. Vous savez, notre pays souffre sérieusement de tous les maux, que ce soit dans le football ou dans la gouvernance tout court. Le Togo est l'un des pays qui est l'arrivée du monde. Alors, c'est quand même assez, je dirais, c'est pour nous, c'est pas une fierté. Vous savez, même en tant qu'opposant, en tant que citoyen togolais, nous sommes couverts de honte et de boue face à cela. Alors, donc, il reviendra à la justice de notre pays d'être saisi de cette question, de ce point, et d'établir les responsabilités. Parce que, comme toujours au Togo, il se passe des choses d'une gravité exceptionnelle, mais au bout, il n'y a aucune sanction. Aucun auteur n'est identifié parce que ce sont les intouchables qui sont concernés. Nous souhaitons et nous demanderons, d'ailleurs, nous ferons sortir un communiqué pour demander à la justice de se saisir de ce problème et de faire les clarifications nécessaires.
Maître Abitissa, une dernière question. Ne serait-ce qu'un mot, si vous avez un mot à l'endroit et de ceux qui nous écoutent actuellement, surtout de la diaspora togolaise.
J'ai souvent souhaité que la diaspora togolaise soit suffisamment impliquée dans la construction de notre jeune démocratie et dans l'avenir du pays. L'un des outils de cette association, me semble-t-il, est le droit de vote accordé à la diaspora togolaise. À un moment où on parle de recensement général de la population togolaise, je pense que l'une des exigences fortes en la matière serait de se prononcer sur le problème du droit de vote de la diaspora. Je pense que notre pays va s'enrichir, la démocratie togolaise va s'enrichir, l'économie togolaise va être boostée par l'apport de la diaspora. Et aujourd'hui, si nos ressources internes semblent, nos ressorts internes semblent s'émousser, semble s'affaiblir, il reviendra à cette diaspora de nous apporter son expérience, son savoir-faire, sa détermination pour que nous portions notre pays vers l'avant.
Maître Abitissa, merci d'avoir répondu à nos questions en direct depuis Lomé.
Vous écoutez Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K.
Parlons à présent de l'éducation scolaire en Afrique. Beaucoup d'enfants manquent de moyens pour leur scolarisation, notamment les fournitures scolaires, cahiers, livres, etc. Au Togo, ils sont nombreux, ces enfants, qui sont dans de telles situations. Cette année, l'un des projets, découvrir l'éducation scolaire africaine et la comparer à celle de la Suisse. Cela s'est passé à Bâle, ici même en Suisse. Une professeure de lycée Laufenthal à Bâle et ses élèves ont décidé de venir en aide aux enfants en difficulté de scolarisation au Togo. Ils viennent de faire un don d'une importante somme d'argent à CJCV, une association installée à Lomé au Togo. Nous avons également le plaisir de recevoir Mademoiselle Gabriela Reine dans Fenêtre sur l'Afrique. Je pense qu'elle est déjà en ligne. Guten Abend, Frau Gabriela Reine.
Hallo, hier ist Gabriela.
Ja, guten Abend.
Guten Abend.
Also, wie wir werden in dieser Sendung auf Französisch sprechen, hein, Gabriela?
Oui, c'est ça.
Alors, Mademoiselle Gabriela Henne, vous êtes professeure au lycée de Bâle et vous venez de faire un don d'une importante somme d'argent à l'association CJC Vie, Cercle des Jeunes Catholiques pour la Vie, une association installée au Togo. Gabriela, comment vous est venue cette idée à aider les enfants pour leur scolarisation en Afrique et particulièrement au Togo?
Ben, c'est surtout à cause des voyages que j'ai faits. Je n'étais jamais en Afrique, mais en Amérique latine, mais aussi à cause des documentaires sur l'Afrique que j'ai regardés à la télé. Et comme je suis prof ici en Suisse, et j'ai toujours apprécié ce que la formation que j'ai reçue. Je veux aussi montrer à mes élèves qu'ils bénéficient d'une situation privilégiée, ce qui n'est pas du tout normal pour tous les enfants de ce monde. Et puis le Togo, j'ai plutôt choisi par hasard. Dès petit, je suis fascinée par l'Afrique et le Togo. Et puis aussi, mm-hmm. en Suisse, on connaît votre équipe de foot hein, mm-hmm. qui est assez célèbre. Et puis c'est pour toi aussi.
Exactement.
On a choisi cette mm-hmm. école.
Mm-hmm. Alors Gabriela, avez-vous déjà effectué de pareils dons dans d'autres pays africains?
Un don comme celui-là, non. Car c'était un peu spécial qu'on a collecté de l'argent avec les élèves. Et ils ont fait beaucoup d'efforts pour recevoir de l'argent pour cette association.
Oui, Gabriela, est-ce qu'il y aura une suivi pour le don que vous venez de faire à cette association? Je voudrais parler d'un compte rendu, par exemple, de cette association après la cérémonie de remise du don aux enfants en difficulté scolaire au Togo.
On a fait une présentation avec les élèves et j'espère que beaucoup de gens ont vu la présentation et comme ça, on a la chance, oui, d'avoir des gens qui vous font des dons comme ça.
Oui, Gabriela, avez-vous aussi d'autres projets en faveur des enfants déshérités et surtout en difficulté scolaire en Afrique?
Non, à l'école maintenant, non. Mais à l'école, on a aussi des possibilités de gagner aussi des gens pour faire des projets comme ça. Et oui. Je vais essayer de continuer avec ça.
Oui, Gabriela, un mot à l'endroit des enfants en difficulté scolaire en Afrique pour finir cette petite interview avec vous, Gabriela.
Ben, je vous souhaite beaucoup d'endurance et énergie et motivation pour réaliser vos rêves et oui, de continuer d'aller à l'école. Voilà.
Gabriela Rennes, hein, je rappelle que vous êtes professeur au lycée de Laufenthal et vous venez de faire un don d'une importante somme d'argent à l'association CJC Vie, une association installée à Lomé au Togo. Merci encore une fois, Gabriela Rennes, d'avoir participé à cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Et bonsoir chez vous, Gabriela.
Merci à vous, bonsoir.
Freedom, 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 freedom belongs to them. Freedom, 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 freedom belongs to children. Freedom, 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 freedom belongs to them. You are the only one who never let children cry. You are the only one who never let children cry. So nice,
so fine,
so fine,
so nice,
so nice,
thanks the Lord.
Freedom, 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 freedom belongs to children. Freedom, 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 freedom belongs to them. Freedom, 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 freedom belongs to children. Freedom, 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 freedom belongs to them. You are the only one who never let children cry. You are the only one who never let children cry.
Freedom, Freedom for Children, chanté par Fum Lalo, un artiste togolais qui évolue ici même en Suisse, à Zurich. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez réécouter encore une fois cette émission en ligne sur togocity.com, ici lomé.com, fmliberté.com et nous remercions ce site d'information togolais pour le relais d'information africaine. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Excellente soirée à toutes et à tous. C'était Sylvain Amos, Romain Koudodi, Fabi Kouassi, Gisela Rossato, Josué Maoli et Esteban Gagnon. Bonsoir, excellente soirée à toutes et à tous.